Bonjour à toute l'équipe de la Bassie J'y suis, c'est Christophe de la Drôme. Aujourd'hui, nous avons 140 kilos de plutonium américain sur les routes de France, une débauche de moyens de protection militaire et policier, patrouilles, hélicoptères, etc. Mais pourquoi? Pourquoi toutes ces mesures de protection alors que notre cher lobby nucléaire, Cogema, Areva, se permet de faire circuler plusieurs fois par semaine toute l'année des camions banalisés avec la même quantité de plutonium sur les routes de France sans aucune précaution? Est-ce que le plutonium américain serait plus dangereux que le nôtre? Enfin, Greenpeace a quand même réussi à pendre une superbe banderole sur le seul tunnel du trajet, car cet endroit n'était pas sécurisé, lui. Alors, si Greenpeace est capable de s'installer sur l'entrée du seul tunnel du parcours, qu'est-ce qui se passerait si des terroristes faisaient sauter le camion dans le tunnel? Bah, c'est simple. Il n'y aurait plus personne sans cancer à Aix, en Provence, à Marseille ou dans la région PACA dans son ensemble. Que l'État arrête donc de se cacher derrière des injonctions bidons pour empêcher Greenpeace de s'exprimer et qu'il s'engage, lui par contre, dans l'abandon total et immédiat du nucléaire.
Bonjour, c'est Monique. J'entends à l'instant José Bové parler de la Boétie et de Montaigne, et moi qui n'ai que mon petit certificat d'études, eh bien ça fait 2 jours que je me penche sur Montaigne, et vraiment, c'est fantastique. Pourquoi on n'en parle pas? Bisous. Au revoir.
Oui, bonjour, Jean-Yves de Dordogne. Je viens d'écouter José Bové. J'ai bien apprécié son image sur l'aïkido syndical, c'est-à-dire d'utiliser la connerie de l'autre pour le faire tomber. Mais fais gaffe, José, l'adversaire peut aussi utiliser ta connerie pour te faire tomber. Allez, salut.
Elisabeth, je voudrais, moi, dire que la démocratie, c'est très simple. C'est un homme, une voix. Et je ne pense pas qu'on soit en démocratie le temps qu'on diabolise, comment s'appelle-t-il, Le Pen, par exemple. C'est un homme, une voix. Il n'y a pas d'autre définition pour la démocratie, monsieur. Voilà, c'est tout. C'est pas que je sois particulièrement pour Le Pen, hein. Mais la démocratie, c'est un homme, une voix. Voilà.
Oui, bonjour Daniel, Manu sur le Larzac, éleveur de brebis laitières pour Monsieur Besnier, Société Roquefort. Voilà. Je viens d'écouter ton émission avec José Bové. C'était juste pour dire que je suis entièrement d'accord avec lui pour la lutte contre les OGM. Mais il faudrait pas oublier qu'il reste quelques agriculteurs et que si on ne défend pas le salaire des agriculteurs, eh ben un jour il y en aura plus. Et en ce moment, il se négocie le prix du lait chez Société et il n'y a pas de représentant de la Confédération paysanne. Voilà. Donc s'il y a plus d'agriculture, s'il y a plus d'agriculteurs, eh ben les OGM, on n'en parlera plus. Voilà. Ciao Daniel, et puis continue pour ta bonne émission. Au revoir.
Oui, salut, samedi 2 octobre, de passage à Bordeaux. Je vais faire quelques courses au centre commercial Auchan de Bordeaux-Lac. Le fameux centre commercial qui voulait virer les caissières, qui avait utilisé des tickets de réduction de quelques dizaines d'euros. J'arrive à l'ouverture, 8h30. Quelle ne fut pas ma surprise de voir plusieurs employés avec de grands paniers en osier offrant des croissants à tous les clients pénétrant dans le magasin. Il faut savoir que la veille, il y avait eu une forte mobilisation et une pétition de clients en faveur des caissières. Quelle belle leçon de manipulation de la part de la direction d'Auchan. L'art et la manière de retourner l'opinion et de mettre les clients dans sa poche avec quelques croissants. Philippe Châtillon d'Azergues.
Retour. Ah voilà, j'ai un retour, ça y est. Et oui, nouvelles installations, nouveaux micros, et on n'a pas toujours le bon doigt sur le bon bouton. Voilà, c'était les messages du jour, suite notamment à l'émission d'hier avec Gilles Luneau et José Bové, tous les deux auteurs d'un bouquin qui sort ces jours-ci aux éditions La Découverte sur la désobéissance civique, vous aviez compris. Aujourd'hui une balade très particulière. Comment ça pourrait s'appeler s'envoyer en l'air ou être barré ou être ailleurs. Enfin oui, c'est à peu près être là-bas si j'y suis. Voilà, c'est ça un peu le thème d'aujourd'hui. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, dont je rappelle le numéro 01 56 40 37 37.
Salut à tous, alors une petite info, c'est le comité local Paris-Nord-Ouest de l'association ATTAC
qui organise un week-end de forum, de concerts et puis de projection de films aussi, le 8 et le 9 octobre prochain, c'est-à-dire le week-end prochain. Ça aura lieu à Paris, dans le 18e, à l'Olympique Café, qui est situé au 20 rue Léon, métro Château Rouge. Alors l'entrée est libre et puis c'est bien sûr ouvert à tous. À samedi, salut.
Ouais, salut à Daniel, salut à toute l'équipe. Tu fais depuis quelque temps là ton jeu concours avec les 140 milliards de dollars de ce que coûte la guerre d'Irak. Ce qui serait intéressant de faire, c'est aussi de faire un jeu avec les 50 milliards d'euros qui par an sont le produit de l'évasion fiscale en France tous les ans. Et pour lutter contre le principe des paradis fiscaux, qui sont l'équivalent de l'enfer social en fait, lance une grande campagne européenne le 9 octobre, samedi après-midi, notamment à Monaco. Il va y avoir un rassemblement, mais pas seulement à Monaco, à Luxembourg, Jersey, Andorre, enfin un petit peu partout, pour dénoncer le principe des paradis fiscaux qui, je vous rappelle, coûte à la France 50 milliards d'euros par an en termes d'évasion fiscale. Chiffre qu'on peut rapprocher des 13 milliards d'euros annuels de trous de la Sécu et des 48 milliards de dollars qui seraient nécessaires par an pour améliorer la situation sanitaire, alimentaire et éducative dans le monde entier, selon le PNUD, hein, chiffre de 1998. Bon, de toute façon, portez-vous bien. Samedi 9 octobre, à Monaco, rassemblement devant l'entrée de Monaco pour dénoncer les paradis fiscaux. Le soir, au Diable Bleu, une grosse fête. Le lendemain, 10 octobre, la grosse fête au Diable Bleu. Le 17 octobre, fête de la MAP à Montauroux à la ferme de la Barrière. 26 octobre, au Diable Bleu, soirée varoise. Si après vous dites qu'on fait rien, ciao viva, portez-vous bien.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Hervé Pochon là-bas, si je suis.
Flight number 2. Le pire, cependant, c'était que les craves s'étaient occupées d'elles. J'avais vu des carrelés et des flétans que des pêcheurs avaient laissés trop longtemps dans leur filet, leur abdomen complètement dévoré. Et je n'aurais jamais pensé que des craves pouvaient s'en prendre à un corps humain avec une telle voracité. Le visage de Madame Campbell était transformé en une horrible caricature par des petits crabes à la carapace verte qui grouillaient et s'affairaient, maintenant dans ses orbites.
Dans le RER, dans l'ordinaire ER, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu rêves? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu rêves? Qu'est-ce que tu rêves?
Ils agitaient leurs mains, se battaient entre eux et se grimpaient les uns sur les autres. Leurs carapaces et leurs pattes cliquetaient et crissaient comme d'incessantes castagnettes. Les crabes sortaient déjà de l'ouverture béante à moitié dévorée entre ses jambes et tiraient sur la chair blanche et tendre.
Le gibier comparait les charmilles de dentelle et coudrait à frima les abus du palais de la Seine roulait des flots d'argent.
Il fait un temps, il fait un printemps, à coincer la bulle, se disent les bulles coincées dans le RER, ordinaire ER. Comment sortir? Pour beaucoup, le livre apporte une porte, une fenêtre avec vue.
Je regardais autour de moi, la mer montait et venait lécher les rochers, apportant des véhicules sales, des débris de bois flottants et des arc-en-ciel de mazout. Il n'y avait qu'une trace des vêtements de Madame Campbell, une trace de son sac à main, absolument rien qui pouvait permettre à la
bulle coincée, chaque jour, chaque instant, des milliers d'usagers. Usagers dans le petit train de vie se plonge dans un livre ouvert. Avec Hervé, on leur a dit « Qu'est-ce que tu lis ? Qu'est-ce que tu lis ? Qu'est-ce que tu lis ?» Et on a ouvert des univers, des tiroirs, des prières, des rêveries très proches et très divers. 1000 parcours, 1000 voyages dans le voyage lui-même. Le transport en commun est un transport solitaire. Et la lecture demeure ce beau vice impuni. Cette attitude, est-ce que vous y pensez? Ce mystère, quelqu'un d'immobile dans le tumulte et qui est ailleurs, par le simple truchement de petites traces noires alignées sur des bouts de papier.
L'inspecteur Miller pénétra dans la cuisine et se tint sous la lumière crue du plafond.
Vie du rail, on se tire, on s'échappe par les lettres, on s'évade par le papier, on creuse un tunnel sous la couverture. Lire, c'est la belle. On fait mine d'être dans l'ordinaire ER, mais on est tous barrés. Livre devient lèvre. Livre devient ivre. Par le livre, on se délivre. Livre, livry, bondi, Noisy-le-Sec. Je lisais Sandrars et les stations de mon train de banlieue étaient les gares du Transsibérien. Krasnoïarsk, Irkoutsk, Chelyabin. Quand le moine lisait la légende de Novgorod, on traversait Pantin.
On a besoin de ton aide, Junior, dit Harold Smallow. Je ne crois pas si bien dire, fait Junior Jones. Ils ont coincé ma sœur, expliquai-je, ils ont coincé Franny, et ils sont en train de la violer. M'empoignant sous les aisselles, Junior Jones me souleva comme une plume, son visage plaqué contre le mien. Sans brutalité, il m'appuya contre le mur, mes pieds pendaient à 30 cm au moins du plancher. Je ne me débattis pas.
Fabuleux, fabuleux, fabuleux quotidien aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu rêves? Ouvre-moi ta bulle. Hey, est-ce que vous imaginez la nuit si soudain on voyait les millions de rêves que font dans la nuit des millions de gens endormis? Les horreurs, les merveilles, les misères, les inconvenantes lubricités ou bien les rêves de pur baiser. Là, c'est éveillé, c'est le jour, c'est le RER, mais c'est pareil. Syracuse est un métro. Je me demande si Charles Baudelaire a une seule fois imaginé qu'il pourrait être lu dans le métro.
Celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin prennent un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes.
Et vous l'apprenez par cœur, le poème, là ?
Tout à fait. En fait, c'est un peu exceptionnel, puisque je vais voir les résultats d'un examen, et donc pour passer l'angoisse, j'apprends effectivement le poème par cœur. Derrière les ennuis, les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut, d'une aile vigoureuse, s'élancer vers les champs lumineux et sereins.
Je peux vous demander le titre de votre livre?
Oui, c'est une pièce de théâtre, Le Cocu Magnifique de Cromberg.
C'est quoi l'histoire?
Je la commence, hein, c'est assez farfelu, comme c'est une histoire écrite. C'est une jeune fille, Stella, qui est amoureuse de Bruno. Et celui-là s'imagine qu'il l'a trompée, voilà. Donc j'en suis là.
Okay.
Mais c'est une pure imagination de sa part. Hein.
Alors, il ne l'a pas trompée, en fait?
Elle ne l'a pas trompée.
Elle ne l'a pas trompée, pardon.
Non, non. Mais c'est ce qu'il s'imagine, comme il est tellement fou, amoureux, il se laisse, enfin, il délire. Mais c'est un délire verbal, c'est assez difficile à expliquer. Comme...
Et vous pouvez ben, m'en lire un petit extrait?
Que j'en lise un petit extrait. Quelle horreur. Je suis obligée, vraiment. Bon, ben, je vais lire celui-là, alors. Alors, c'est Bruno qui parle, là. C'est horrible. Alors, si j'avais su que ça m'arriverait le matin, en allant... Bon, bref, j'étais endormie cette nuit sous un poids énorme, tellement que ma place était creusée comme jamais dans la laine du matelas. Un sommeil de montagne. Elle a profité de mon anéantissement pour se glisser hors du lit. Par où est-elle sortie de la maison? Te l'a-t-elle dit? Non. Elle se défie aussi de toi. Elle sait combien tu m'es attaché. J'avais sous mon oreiller les clés des portes et des volets. Elle les aurait dérobées sans doute, si ma tête n'avait pas été si alourdie. Un homme ne l'eût pas soulevée. Sans clé, comment est-elle partie? Ah, elle a des inventions diaboliques. Crois-tu qu'une femme puisse se métamorphoser en souris et se couler sous une porte? Bon, elle le peut, je l'affirme. C'est une créature d'une autre nature que toi et moi.
On est à quelle station, là?
On est à Nanterre-Préfecture.
Ordinaire ER aujourd'hui, mais mille millions d'univers, mille millions d'univers uniques. Dans le RER, avec Hervé, on a demandé aux gens, qu'est-ce que vous lisez? Dites-moi, lisez-moi quelques mots de ce que vous lisez. Ouvrez-nous votre bulle quelques instants, histoire de montrer, de se démontrer cette incroyable cohabitation des univers que le livre montre et des univers que chacun de nous est. Et puis aussi, pour s'amuser, à voir que là, le livre a une fonction bien précise, bien particulière, qui n'a rien à voir avec l'image qu'on donne très souvent
de la lecture dans les émissions de télévision, par exemple, ce côté cossu, méprisant et pour tout dire intimidant, cette face que prend très souvent la culture dans notre pays. Là, il s'agit vraiment... Est-ce que cette dame qui est en train de lire Le Cocu Magnifique pense à ce qu'elle est en train de faire de la culture? Mais pas du tout. Elle lit vraiment un livre. Et il se passe cette merveilleuse et sublime opération qui consiste à sécréter quelque chose. Je ne sais pas si le mot est très beau, il m'en vient pas un autre à l'esprit. Quelque chose d'absolument neuf entre l'auteur, l'écrivain, et puis l'imagination, l'imaginaire de cette personne. C'est cet imaginaire que le RER transporte et dont on a voulu essayer avec Hervé Pochon de faire quelques photos, quelques images de ces mille univers.
Et la jeune morte de Simenon.
Et c'est quoi l'histoire?
Alors, bah, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se fait assassiner dans la rue. Et puis Maigret cherche qui c'est.
Et vous en êtes où là?
À la fin pratiquement.
Et vous avez une petite idée du meurtrier?
Non, pas du tout.
Non. Vous pouvez me lire un extrait?
Dans un bar élégant, il repérait une victime, un homme cossu de préférence, un industriel ou un commerçant de province. Après quelques verres en compagnie de sa victime, Jean Lemke ou Jules Stieb, John Donnelly, son locat, se plaignait de ne pas connaître le pays.
Il vous reste combien de pages?
Une quarantaine.
Bonne lecture alors, et merci.
Merci.
Mon gros coq chéri, etc. En fait,
tu veux me lire un petit le début, là, la page?
Tu ne m'écris pas, je ne te vois plus, je ne viens jamais. Tu as donc cessé de m'aimer. Pourquoi? Qu'ai-je fait? Dis-le moi, je t'en supplie, mon cher amour. Moi, je t'aime tant. Je voudrais t'avoir toujours près de moi, t'embrasser toujours, en te donnant au mon cœur, mon chat aimé, tous les noms tendres qui me viendraient à la pensée. Je t'adore, oh mon beau coq. Oui, ça... Mais c'est amusant, il y a aussi l'histoire d'héritage, de gens qui se disputent autour d'une femme qu'on croit morte et qui ressuscite. Enfin, c'est très amusant. Au passant, c'est peut-être un des meilleurs faiseurs de nouvelles de cette époque-là.
Et là, vous êtes à la retraite ou partez?
Je suis à la retraite, mais je travaille quand même un petit peu. Et j'ai remonté une petite affaire de restauration d'orfèvrerie. Voilà.
Vous allez jusqu'où?
Dans le quartier du Temple, le quartier des Orfèvres, rue du Temple.
Eh ben, bonne journée alors.
Merci.
Le tien, après, il s'appelle lui, là. Je t'écoute. Vous pouvez aller voir pour le côté, hein.
De l'autre côté, il y a un petit avion pour le guédou.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
Ça veut dire quoi?
Au nom de Dieu le plus clément et miséricordieux, on vous a créé de mâles et de femelles, de nations et de tribus. Le but, c'est l'échange culturel et la connaissance. Et le meilleur d'entre vous est le plus pieux. Question de piété. Et non pas de race ou de... Voilà.
Vous priez souvent dans les transports en commun?
C'est pas une prière, mais c'est on lit le Coran parce qu'en Coran, il y a 60 hizb, 60 parties. Et chaque jour, il faut essayer de lire deux pour terminer à la fin du mois. Et comme ça, on est en contact toujours avec le Coran et on sait qu'est-ce qu'il y a pour comprendre.
Et donc, vous lisez le matin et le soir?
Oui, un le matin et un le soir.
Et dans la journée, qu'est-ce que vous faites?
Ben, je travaille.
Donc quoi?
Ben, je suis étudiant.
Et vous êtes de quelle nationalité?
Marocaine.
D'univers dans un simple RER, une rame comme ça qui traverse la banlieue de Paris, le Coran, du Coran on a l'idée de, on lui donne l'idée d'échange culturel, formidable ce Coran, mais ce qui est formidable c'est que l'échange ne se fait pas juste à côté de ce garçon qui lit le Coran, il y a dans le même wagon cette jeune fille qui lit ceci.
Il y avait 12 wagons pour 650 personnes. Dans le mien, nous n'étions que 45, mais parce que le wagon était petit. Pas de doute, ce que nous avions sous les yeux, ce que nous sentions sous nos pieds, c'était un de ces fameux convois allemands, de ceux qui ne reviennent pas, et dont nous avions si souvent entendu parler, en tremblant et vaguement incrédule. C'était bien cela, très exactement. Des wagons de marchandises, fermés de l'intérieur, et dedans, entassés sans pitié comme un chargement en gros, hommes, femmes et enfants, et en route pour le néant, la chute, le fond. Mais cette fois, c'est nous qui sommes dedans. La soif et le froid nous faisaient souffrir. À chaque arrêt, nous demandions de l'eau à grands cris, ou au moins une poignée de neige, mais notre appel fut rarement entendu. Les soldats de l'escorte éloignaient quiconque tentait de s'approcher du convoi. Deux jeunes mères qui avaient un enfant au sein gémissaient jour et nuit, implorant de l'eau. Nous supportions un peu mieux la faim, la fatigue et l'insomnie, rendus moins pénibles par la tension nerveuse. Mais les nuits étaient d'interminables cauchemars. Là, c'est un extrait de « Si c'est un homme » de Primo Levi.
Vous êtes juive ?
Oui, je suis juive.
Et vous lisez beaucoup de livres comme ça ?
Non, peu, ça dépend des périodes. J'en lis un petit peu, j'arrête, je reprends, mais mes lectures ne sont pas faites que de livres comme ça. Non.
Histoire de quoi ?
Une histoire d'horreur.
D'horreur ?
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe ?
C'est des extraterrestres, quoi.
Qui arrivent sur la Terre ?
Oui. Pour l'instant, on ne sait pas encore, mais enfin, on pense que c'est ça.
Et vous avez une petite idée de ce qui va se passer ?
De toute façon, c'est toujours comme dans tous les livres, hein, les gentils, ils gagnent.
Ah. Et là, les gentils, c'est les extraterrestres ?
Voilà. While Jack Neil shut the other door at the back of the house, Toby helped Heather pile pots, pans, dishes, flatware, and drinking glasses in front of the door between the kitchen and the back porch. That carefully balanced tower would topple with a resounding crash if the door was pushed open even slowly, alerting them if they were elsewhere in the house. Pendant que Jacques tape sur des clous sur la porte pour empêcher quelqu'un d'entrer.
Jacques, c'est un extraterrestre ou
c'est... Non, Jacques, c'est un garçon.
C'est un gentil.
C'est le mari, en fait. Donc, il y a Toby qui aide sa mère à empiler tout un bric-à-brac pour, au cas où il y a quelqu'un qui rentre en bas, on va entendre tout délinguer.
Ah oui, comme ça, ils ne seront pas...
ils sont avertis.
Ouais, ils seront avertis par les extraterrestres. Jamais les extraterrestres essayent de rentrer.
Voilà.
Allez, non, mais c'est la fois. Vous lisez pas, monsieur ?
Non. Je sais les lire, les écrire.
Ah, vous ne savez pas lire ?
Non.
Prière du temps présent. L'office du lundi matin. Hein, c'est l'hymne... Au Dieu de la création, le psaume 118. Bon, alors, les cieux racontent ta gloire, ô Seigneur. Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour, au jour, en livre le message, la nuit, à la nuit, en donne connaissance. Ce n'est pas un discours, il n'y a pas de mots, leur voix ne s'entend pas. Ce qu'ils proclament a retenti par toute la terre, et leurs paroles jusqu'au bout du monde. Voilà, à la fin de l'hymne, en général, on dit « Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. »
Vous êtes prêtre ?
Ah non, pas du tout. Et laïc ordinaire, hein. Mais là, justement, comme je suis en retard ce matin, hein, au lieu de lire à la maison, hein, je profite du transport, et puis en même temps, ça met en forme, si on peut dire, pour la journée.
Là, on est où?
Ici, nous sommes au Bourget.
Un souriceau tout jeune et qui n'avait rien vu fut presque pris au dépourvu. Voici comme il conta l'aventure à sa mère. J'avais franchi les monts qui bornent cet état et trottais comme un jeune rat qui cherche à se donner carrière lorsque deux animaux m'ont arrêté les yeux. L'un doux, bénin et gracieux et l'autre turbulent et plein d'inquiétude. Il a la voix perçante et rude, sur la tête un morceau de chair, une sorte de bras dont il s'élève en l'air comme pour prendre sa volée, la queue en panache étalée. Je l'allais aborder quand d'un son plein d'éclat l'autre m'a fait prendre la fuite. « Mon fils, dit la souris, ce doucet est un chat, qui sous son minois hypocrite, contre toute ta parenté d'un malin vouloir est porté. L'autre animal, tout au contraire, bien éloigné de nos malfaires, servira quelques jours peut-être à nos repas. Quant au chat, c'est sur nous qu'il fonde sa cuisine. Garde-toi, tant que tu vivras, de juger des gens sur la mine. » Et voilà, n'est-ce pas d'actualité ?
Mais vous êtes acteur, c'est pas possible.
Non, grand amateur de La Fontaine. Grand amateur. Et dans le RER, c'est très agréable parce que ça distrait, c'est court, on peut en lire une, deux, enfin, voilà, en fonction du trajet.
Et j'ai l'impression que vous les apprenez un peu par cœur.
Oui, quelques-unes. Mais je vous laisse parce que je suis arrivé.
Ah, bon.
La bonne continuation.
Vous travaillez dans quoi ?
Moi, j'écris un petit peu. Je suis journaliste, enfin, rédacteur. Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Caisse du lit, coincé dans ta bulle, coincé dans ton livre. En voyant ce que tous ces gens lisent, je me demande bien souvent, une fois de plus en tout cas, si on nous renvoie de nous-mêmes une bonne image. Je veux dire, est-ce que c'est une image juste que celle que l'idée qu'on se fait de nous-mêmes ? On parle pas beaucoup de ça. C'est quand même des rêves extraordinaires. Toute cette cohabitation permanente de rêves qui, d'une manière extraordinaire aussi, ne communique jamais.
Éric Orsenna, Comédie Française.
Et qu'est-ce qui se passe là où...
Je suis toute au début, donc je ne sais pas.
C'est l'histoire de quoi ?
Mais j'en ai aucune idée, c'est les premières pages.
Vous avez quand même lu 30, 40 pages ?
Ouais, mais enfin 40 pages, c'est juste le début. C'est, voilà, c'est juste après la guerre, c'est tout ce que je peux vous dire.
Est-ce que vous pouvez me lire la première page ?
Voilà, il faisait beau ce 28 mai, l'hiver avait été long. On ouvrait les fenêtres pour la première fois depuis octobre. Les rues s'emplissaient du parfum des vies recluses au coin de l'âtre, au bord du poêle. D'innombrables femmes au balcon, on aurait dit Stendhal, l'Opéra de Parme, d'innombrables jolies aux sorcières en fichu, frappaient leurs tapis. Se venger avec rage du gris quotidien depuis l'automne, des grippes qui durent, des toux qui traînent. De temps en temps, pour franchir une rue où déjouer d'éventuels soupçons, Charles jouait à l'enfant, il dérobait les chiens attachés à l'entrée des boucheries et les promenait en laisse. Voilà, c'est la première page.
C'est un livre de yoga.
Vous apprenez à faire du yoga ?
Ah non, je suis le professeur de yoga.
Alors vous révisez dans le RER ?
Oui, j'ai révisé dans le yoga RER et j'apprends le technique de mon maître. Une définition de yoga, qu'est-ce que c'est le yoga ? C'est ça que vous voulez savoir ? Le yogi se trouve la plénitude dans la grâce de l'esprit qui est en lui, alors il connaît la joie éternelle qui est au-delà de la limite des sens et que la raison.
Est-ce que ça vous arrive de pratiquer le yoga dans le RER ?
Oui, ça par ma concentration. Et je prie qu'à l'intérieur du corps.
Donc, concrètement, c'est quand vous êtes dans les transports en commun. Dans la concentration, c'est-à-dire vous recentrez sur vous ?
Voilà, ça recentrait sur moi. Même qu'il y a des dérangements de nuit, par exemple, le monsieur qui chante dans le RER, ça ne me dérange pas par ma concentration.
Vous n'entendez pas ?
J'entends pas. Parce que je suis un yogi je laisse toujours la volonté pour les autres, pour ne pas être pressé dans le corps. Il faut toujours que mes muscles se relâchent à chaque instant pour pouvoir la concentration. Je m'appelle Sundi Krishna.
Ouais. Ça veut dire quelque chose ?
Oui, Krishna, c'est un dieu, c'est le 8e incarnation de Vishnu. Et Sundi, c'est la pleine lune.
Voilà. Je vous remercie.
Je vous en prie, monsieur.
Bonne journée.
Merci, vous de même. Oui.
Voilà. Vous êtes musicien ?
Oui, je fais du piano jazz.
Donc vous n'avez pas votre instrument avec vous, quoi.
Ah non.
Bon, ben, je vous remercie. Et ça s'appelle comment ?
De quoi ? Ça, c'était Impression de John Coltrane.
Merci.
Chasser le surnaturel, il revient au galop, voilà Coltrane, pour le plus grand bonheur de tous. Et ça nous ramène au Duke. Et si ça nous ramène au Duke, ça nous ramène à Taxi A-Train, c'est-à-dire le métro qui conduisait vers Harlem, vers les rêves, vers le sublime. Et on y est à chaque instant dans ce RER. Il suffit d'ouvrir une page, d'ouvrir la bulle, que quelqu'un accepte d'ouvrir un petit peu sa bulle pour entrer dans un univers inattendu, imprévu, inaperçu. Alors on a quand même, avec Hervé, voulu voir celui qui mène le train, le conducteur du train. Il faut vous dire aussi ceci, c'est que Hervé Pochon est un lecteur aussi, de train, enfin c'est quelqu'un qui lit dans le train comme vous tous, comme beaucoup d'entre nous, et il est en train de lire un livre qui s'appelle Mars de Fritz Horn, et il est monté dans la cabine du conducteur de ce RER et il a tenu lui-même à lire un passage de Mars.
Jeune et riche et cultivé, et je suis malheureux, névrosé et seul. Je descends d'une des meilleures familles de la rive droite du lac de Zurich, qu'on appelle aussi la rive dorée. J'ai eu une éducation bourgeoise et j'ai été sage toute ma vie. Ma famille est passablement dégénérée, c'est pourquoi j'ai sans doute une lourde hérédité et je suis abîmé par mon milieu. Naturellement, j'ai aussi le cancer, ce qui va de soi si l'on en juge d'après ce que je viens de dire. Cela dit, la question du cancer se présente d'une double manière. D'une part, c'est une maladie du corps, donc il est bien probable que je mourrai prochainement. Mais peut-être aussi puis-je la vaincre et survivre. D'autre part, c'est une maladie de l'âme, dont je ne puis dire qu'une chose. C'est une chance qu'elle se soit enfin déclarée. Je veux dire par là qu'avec ce que j'ai reçu de ma famille au cours de ma peu réjouissante existence, la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, c'est d'attraper le cancer. Je ne veux pas prétendre ainsi que le cancer soit une maladie qui vous apporte beaucoup de joie. Cependant, du fait que la joie n'est pas une des principales caractéristiques de ma vie, une comparaison attentive m'amène à conclure que depuis que je suis malade, je vais beaucoup mieux qu'autrefois, avant de tomber malade. Cela ne signifie cependant pas que je veuille qualifier ma situation de particulièrement agréable. Je veux dire simplement qu'entre un état particulièrement peu réjouissant et un état simplement peu réjouissant, le second est tout de même préférable au premier. Je me suis donc décidé à noter mes souvenirs dans ce récit.
Je connais ce livre par cœur. C'est Morse de Fritz Zorn. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup et ce livre, c'est certainement le livre qui m'a le plus marqué dans ma vie. Ouais, je connais des passages. C'est incroyable, c'est vraiment un livre magnifique. Mais je peux parler là, je vous dis ça parce que ce passage, c'est vrai que je le connais très bien.
Vous en connaissez un autre par cœur?
La fin, quand il parle de Mars dans la mythologie grecque. Excusez-moi, là je passe sur un passage difficile puisqu'il y a des travaux.
Mais dites-moi ce que vous êtes en train de faire.
Là, il y a des travaux, ils vont changer l'aiguillage, donc nous sommes obligés de passer à 30 puisque la voie n'est pas stabilisée.
Et vous conduisez le RER là?
Voilà, c'est la ligne A.
Vous pouvez me réciter les stations de la ligne A? Vous les connaissez par cœur?
Bellano, Vézinay-le-Pec, après c'est Vézinay-Centre, Château-Poissy, Rueil-Malmaison, Nanterre-Ville, Nanterre-Université, Nanterre-Préfecture, après...
J'ai dépassé un peu...
Vous avez le temps de lire quand vous conduisez le RER?
Non, pas pendant qu'on conduit, c'est interdit, ça peut être dangereux. Et puis c'est impossible de toute façon, vu le nombre de trucs qu'on a à faire. Fermer les portes, conduire, surveiller la voie, les signaux, la vitesse, tout ça. Donc c'est impossible et puis c'est pas recommandé de toute façon.
Et entre deux stations?
Non, c'est pas possible. C'est pas possible, on n'a pas le temps. Et puis, la lecture, c'est un moment privilégié. C'est pas possible de lire comme ça rapidement. Il faut un état d'esprit, il faut se vider complètement pour pouvoir s'imprégner de ce qu'on va lire. Enfin, moi, j'aime beaucoup lire, je lis énormément. Donc, je me vois pas lire n'importe comment et n'importe où. Je lis chez moi, dans mon lit souvent, parce que c'est le meilleur endroit, enfin, à mon sens. Mais pas là, pas dans ces conditions.
C'est quoi cette feuille là qui est posée sur le tableau de bord?
Ça c'est marqué dessus, c'est le bulletin de conduite. Alors donc il y a mes horaires, il y a puisqu'on change souvent de train.
Vous pouvez me lire là?
Oui. Alors ce matin, moi j'ai commencé par un train qui se dénommait Bleu. Après j'ai été le garé en WYWB. Maintenant j'ai pris ce train, c'est un Neige. Ça s'appelle des codes mission, c'est pour permettre aux gens de connaître la destination du train. La lettre N, par exemple, c'est Boissy, ce serait la Varenne, ce serait R, René, par exemple, ou Rudy. Je reviens à Zébu, Z comme Saint-Germain, c'est comme ça. Voilà.
A marqué dans le livre Mars?
La fatalité et l'angoisse d'être homme, tout ce qu'il dit, bien sûr, la richesse, tout ça, son milieu, le milieu bourgeois et tout. Mais ce que j'ai ressenti, c'est avant tout dans ce livre. Dans ce livre, c'est l'angoisse, l'angoisse devant la vie, l'impossibilité de vivre. Pour beaucoup de gens, enfin, je connais des gens comme ça. Il y a beaucoup de gens maintenant qui ne sont pas armés pour affronter la vie. Et ça, c'est peut-être un peu mon cas, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ce livre, j'ai vraiment été fasciné. Il y a longtemps, je l'ai lu à sa parution, je ne sais plus, en 83 ou 85, dans ces années-là. Mais c'est l'incapacité de vivre. Tout ce qu'il dit après, que le rôle de la société, de son milieu et tout ça, c'est vrai, mais pour moi, ça a été accessoire. Ce qui m'a fasciné, c'est l'incapacité de vivre d'un être humain qui n'était pas armé pour vivre.
Et vous pensez que vous n'êtes pas armé pour vivre ?
Non, pas dans ce monde. Pas dans ce monde-là.
Qu'est-ce qui vous manque ?
Je sais pas, nous vivons dans un monde de loups, dans un monde, le monde du métro, tout ça, c'est très dur. Et des gens comme moi, on n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Il nous manque la violence, l'agressivité. Peut-être aussi un certain désir d'être que j'ai pas.
Dans un monde de loups, vous prenez pour quoi, vous ?
Oh, pour rien, c'est même pas ça. C'est que je me reconnais pas. Je me reconnais pas dans ce monde. Pas du tout. J'ai rien à voir là-dedans. Avec les hommes, les êtres humains qui m'entourent, c'est comme si j'étais d'ailleurs. Mais il faut bien vivre, vous voyez ça. C'est quoi ce livre m'a frappé ? Lui, il refuse de vivre, il meurt jeune. Je pensais à un certain moment que je serais mort jeune, et puis voilà, mais j'ai une santé de fer, il ne m'arrive rien. Mais je pensais que j'aurais eu la chance de mourir jeune, et puis c'est pas arrivé. C'est pas arrivé, je sais pas pourquoi. J'arrive à la quarantaine et parti comme c'est là, je risque de vivre centenaire. Ouais.
Vous venez de quel pays ?
Oh là, c'est une histoire pas possible, ça. Moi, mes parents sont d'origine indienne, mais moi, je suis né aux Antilles. Mais j'ai vécu ici, surtout. Un peu de mon drame vient de ça, de ne pas savoir d'où je viens, qui je suis. Je suis pas tout à fait antillais, pas tout à fait français, pas tout à fait indien. Donc, mais c'est même pas tellement ça. Je me pose plus tellement ce genre de problème. Mais au départ, c'est très difficile de vivre sans repère, sans savoir ce qu'on est vraiment. Mais avec l'âge, on s'y fait, et puis ça amène vers d'autres choses, d'autres mondes, une autre façon de vivre. En tout cas, ça m'évite d'être un seul aussi, hein. Puisque je ne peux pas prendre parti pour qui que ce soit.
Bon, le quai 2, Germain, tu me reçois ?
Ça vous évite d'être quoi, d'être un ?
Un salaud. Un salaud, écoute, comme les gens qui se réclament d'un pays, d'un peuple, de trucs comme ça. Moi, j'ai la chance d'échapper à ça. Excusez-moi, je vais plus le chauffer.
C'est quoi vos repères aujourd'hui ?
J'ai quelque chose qui m'aide à vivre beaucoup, c'est il y a quelques années, j'ai découvert le bouddhisme. Et ça, j'y ai trouvé quelque chose qui vraiment m'a évité de me suicider. Ça m'a sauvé la vie. Voilà, sans plus, hein.
Et vous arrivez à méditer en conduisant le RER ?
Mais c'est fait pour ça, c'est pourquoi j'ai choisi ça. Ça me permet de travailler ma respiration, ça, quand je suis tout seul, hein, pas quand il y a tout. Puis ça permet d'être seul. Je crois que ça, c'est quelque chose que tout le monde devait expérimenter une fois dans sa vie, la solitude. Pouvoir rester des heures tout seul ou même des journées, simplement comme ça. Puisque plus personne n'a plus rien à dire à personne. Voilà. Et c'est pourquoi je fais ce boulot. C'est pourquoi j'aime ça. Parce qu'on est tout seul. Tout seul sur mon train, je parle à personne. Personne ne me parle et puis c'est bon.
Et qu'est-ce qui vous a à un moment tenté dans le suicide ?
Mais simplement l'angoisse de vivre. L'angoisse et puis le désespoir d'être différent. dans un monde pareil où n'importe qui, n'importe quel pauvre type, parce qu'il est de ce pays, il est de plein droit d'ici, et puis il te le fait sentir vraiment. Et puis, voilà. Parce que je ne suis pas d'ici. Je crois que tous les mecs qui ont été étrangers une fois dans leur vie ont ressenti ça. L'envie de ne plus être étranger. Ça, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à quelqu'un, c'est être étranger. Et pourtant, je suis français, je suis né aux Antilles, donc je suis français, mais tout ça, c'est rien. On est français par la couleur de la peau. Il faut être blanc, il n'y a pas à chiquer. Il faut avoir la même culture, tout ça. Ah, ça c'est des collègues.
Vous pensez que vous serez jamais considéré comme français alors?
Pardon. C'est un collègue.
Voilà.
Tu vas chercher un train d'appel?
Oui. Oui. La dernière course.
Ouais. Moi j'ai encore un voici.
Je reviens par ces journées
et je finis à l'autre. Mais t'as la
foi, toi, de venir.
Oh, c'est... Tu veux rien lui dire?
C'est
pas mon monsieur, non. C'est pour qui vous faites ça?
Pour France Inter.
Oui, mais quelle émission? Moi, j'écoute souvent France Inter.
Là-bas, si j'y suis.
Ah, je connais bien. J'écoute tout. C'est quoi je fais du matin pour pouvoir écouter heure, écoute. C'est l'émission de Daniel Merwin. Oui, là-bas, si j'y suis. Oh là là. Il y a de 60, il voulait pas l'oublier.
Voilà. Vous avez dépassé la vitesse. Je vous perturbe. Daniel Merwin,
ouais. Ouais, c'est bien, vraiment bien. J'adore ça.
J'ai pas trop parlé. Des émissions en après-midi.
Ouais, ouais.
Il y a quelques années, il faisait la coulée chaude, je crois, ou un truc comme ça. Bon, il y a longtemps, France Inter.
Moi j'écoute quoi France Inter parce qu'il n'y a pas de publicité. Et puis c'est quand même bien.
Voici Serge Interlus. Tous les voyageurs sont invités à descendre. Voici Serge Interlus. Tous les voyageurs sont invités à descendre.
Vous l'avez entendu, la petite publicité subliminale, là-bas si j'y suis, et puis le gars qui écoutait une émission autrefois qui s'appelait La Coulée Chaude. Ben, on va remettre ça, c'est drôle, hein, que ça tombe comme ça, on va remettre ça la semaine prochaine. On va s'en faire une petite ressucée, bah oui, bon, alors, de la coulée douce, si vous êtes très très sage, ce sera la semaine prochaine. En tout cas, ça c'était un reportage d'Hervé Pochon. Des petites annonces, du 8 au 16 octobre à Toulouse, festival Origine Contrôlée est prévu ce soir, un débat sur la mémoire, l'immigration et la colonisation avec qui donc? Pascal Blanchard. Vous vous souvenez, Pascal Blanchard, un reportage de Guy Vanctil sur le Paris arabe et suivi du concert de Cherha Rimiti. Samedi 9 octobre, journée européenne contre les paradis fiscaux organisée par ATTAC. Donc le capitalisme va encore reculer. ATTAC qui organise également un week-end de forums et concerts avec Gérard Filoche, Gus Macia à l'Olympique Café à Paris. Deux artistes à ne pas manquer, c'est dans le 18e arrondissement. Dimanche de 15h à 19h, état des lieux des associations parisiennes avec le collectif Association en danger à la Maison des Métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud, 11e. Et si vous voulez plaire à Pascal Pascariello, il faut absolument que vous signiez la pétition pour les faucheurs sur le site d'un monde solidaire, www.monde-solidaire.org. Voilà, aujourd'hui, technique, Benjamin de la Gâtinais et Patrick Henry, Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Imbert, c'est l'équipe de La Basse, si j'y suis. Le répondeur de La Basse, si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37, mais ça vous le saviez. Tout comme le mail de là-bas, si j'y suis, daniel.mermet@radiofrance.com. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale, La Coulée Chaude ou La Coulée Douce, la semaine prochaine. Vous fera peut-être, vous débauchera les oreilles avec des mots comme ceci. Dans le fauteuil bleu, large comme un lit, aux bras enlaçants comme une caresse, elle est toute nue et toute en ivresse devant la candeur du miroir poli. Voilà, la suite, c'est donc la semaine prochaine, après un week-end que je vous souhaite extrêmement coquin et chaleureux. Dans un instant, vous retrouverez Frédéric Bonneau pour Charivari, mais il faut d'abord déguster la réclame.